Médien.
Média. Podcast.
Médien. Bienvenue à toutes et à tous dans notre rencontre d'aujourd'hui. Eh bien, on va parler de célibat, on va parler de retour au pays et on va parler de pression de mariage. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, version homme.
Hassan Debar, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Hassan?
Ça va très bien, très très bien. Et vous? Et vous-même ce matin?
Écoutez, heureuse d'échanger avec vous. Et c'est incroyable parce qu'on va dire que le contexte, les circonstances font tellement bien les choses naturellement. Je recevais Fatine Wahbi pour parler justement de son recueil de proverbes marocains qu'elle avait, qu'elle a sorti il y a quelques temps. Elle est d'origine marocaine, elle est installée en Belgique, elle est née là-bas, c'est la troisième génération, elle s'est mariée là-bas, elle a des enfants et tout ça. Et puis elle abordait aussi avec moi cette idée de retour au pays, au Maroc, au pays de ses parents.
D'accord.
Et vous, en fait, vous avez décidé de franchir ce pas. C'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai toujours eu cette dynamique du retour. J'ai, malgré les 20 années que j'ai passées en France, que ce soit pour mes études de médecine, puis ensuite le début de mon exercice professionnel, j'ai étonnamment, ce qu'auraient pu penser mes parents ont toujours pensé que je resterais là-bas, mais moi, je n'ai jamais émis le souhait de rester. Donc le retour me paraissait quelque chose d'assez naturel dans la suite des choses.
Vous êtes né au Maroc?
Alors, moi, je suis né en France pendant que mes parents faisaient leurs études en France, justement, et ils m'ont ramené dans leur bagage quand j'avais 3 ans.
Okay.
Donc, j'ai grandi au Maroc.
D'accord.
J'ai une enfance marocaine.
Une enfance marocaine, ensuite un retour en France pour les études.
Tout à fait.
Donc, et une vingtaine, on va dire... Pardon?
Juste après le baccalauréat, c'est ça, oui.
C'est ça, une vingtaine d'années en France.
Tout à fait. Ouais.
Donc en fait, quand on sait qu'on va revenir, on ne se sent jamais vraiment chez soi là-bas. On a l'impression d'être toujours en... Voilà, c'est une parenthèse.
Oui et non, parce qu'en fait, vraiment, les gens, contrairement à ce qu'on peut ressentir un petit peu du climat ambiant qu'il y a actuellement en France, moi, les gens m'ont toujours fait sentir que j'étais quelque part chez moi. Que ce soit par mes fréquentations, mes amitiés... mes amours, enfin, j'ai toujours eu cette impression d'être vraiment chez moi.
Mais vous, au fond de vous, connaissant cette décision du retour, est-ce qu'on se sent chez soi quand on sait qu'on va revenir?
Je pense que c'est comme quand on est entre deux appartements ou deux maisons. On sait qu'on est chez soi au moment où on y est. Et que quand on va changer ou bouger ou déménager, qu'on sera à nouveau chez soi. Donc, je n'ai pas vraiment eu cette... sensation d'être un étranger.
Ok. Alors, on va parler de cœur, mais pas de votre spécialité, parce que vous êtes chirurgien cardiovasculaire. Je vais parler de votre muscle à vous, de votre cœur à vous. Alors, justement, quand on sait qu'on va revenir, par exemple, quand on sait qu'on est quelque part et qu'on va revenir dans son pays, est-ce que ça, ça a déjà stoppé des relations amoureuses?
Oui, bien sûr. Bien sûr, hein, même si initialement, en tout cas la dernière qui avait compté, avec qui il y avait des projets, il y avait même un projet de s'installer, en tout cas d'une prospection ensemble ici au Maroc. Bon, les choses ne se sont pas faites, mais oui, effectivement, ça met un petit holà parfois, ouais.
Oui.
Même un grand.
Même un grand, c'est vrai?
Même un grand holà, oui. Je pense que c'est tout à fait légitime aussi bien pour la personne... qui suit que pour la personne qui est suivie, dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on a nos appartenances familiales, nos attaches familiales, et que c'est assez difficile de se dire je quitte tout ça, je quitte mon pays pour suivre quelqu'un, malgré tous les sentiments qu'il peut y avoir.
Et vous n'avez jamais voulu reconsidérer votre option de retour? Votre décision plutôt, c'était pas une option. Pour quelqu'un, pour une femme?
Non, mais écoutez, pour l'instant, en tout cas, non, pas pour une femme, parce que les choses se sont finies là où elles se sont finies. Mais je suis très très bien ici. Je n'ai aucun point négatif, on va dire rédhibitoire, qui me ferait reconsidérer tout ça. Hein.
Mmh. Voilà. Alors, je sais que vous êtes venu vous installer à Tanger. Vous avez grandi dans cette ville?
Non, j'ai grandi à Meknès.
D'accord.
Donc, j'ai grandi à Meknès et effectivement, pourquoi Tanger Alors, initialement, c'était plus... je cherchais une ville où il y avait la mer. Donc, moi, j'ai un grand attachement depuis quelque temps à la mer. J'aime bien me lever et savoir que quelque part à côté, il y a la mer ou l'océan. Mmh. Je pense que c'est un petit peu lié aussi à quelques années que j'ai passées aux Antilles, en Martinique, où j'y ai fait une partie de ma formation. Et c'est vrai que bah, tous les matins, on se sait proche de la mer. Ouais,
c'est ça.
Ouais.
Alors, avec toute cette certitude du retour, depuis le jour où vous êtes parti pour vos études, votre formation, le début de votre pratique, etc., surtout qu'on sait que des études de médecine, une spécialité, ça prend beaucoup de temps, ça prend des années. Mmh. Donc, est-ce que malgré tout, quand on revient,
oui.
Est-ce qu'il peut y avoir... Peut-être pas des déceptions, c'est un grand mot, mais des surprises. Ou bien...
Ah oui, bien
oui,
sûr.
Oui, oui.
Oui, bien sûr, parce que je pense que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et qu'effectivement, quand on arrive ici, on peut être un peu dans la naïveté de croire que tout sera pareil, d'un point de vue professionnel en tout cas. Effectivement, on découvre des choses, on découvre des mentalités, des pratiques, plein de choses auxquelles je ne vais pas dire... C'est pas qu'elles sont moins bien ou meilleures, c'est juste qu'on n'est pas habitué à certains modes de fonctionnement, à une certaine logique qui pour nous peut ne pas en paraître une.
Mmh.
Sans vraiment de critiques négatives, même s'il peut y en avoir, que ce soit en France ou ici. Hein. Mais c'est des modes de fonctionnement qui peuvent parfois un petit peu nous heurter.
Mmh. Alors, justement, hier encore, j'en parlais avec Faten Wahbi, comme je vous ai dit. Elle se posait cette question de venir s'installer au Maroc et éventuellement à Tanger. C'est fou, mais ce que cette ville attire actuellement, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est la ville où Mehdi 1 est installé. Donc, nous sommes installés à Tanger. On a le luxe d'être aussi dans cette ville. Dans l'absolu, Tanger ou autre ville du Maroc, que ce soit des Marocains du monde qui veulent revenir, que ce soit des Marocains comme vous qui sont partis, qui pensent au retour après des études, une expérience professionnelle, etc. Si on devait parler, en fait, si vous deviez parler de votre propre expérience, les conseils, de tout en fait, c'est-à-dire l'installation professionnelle, les déménagements, la totale, ça serait quoi?
Bah, c'est vraiment en fait d'anticiper les choses, hein, parce que c'est pas juste on vient et on pose nos bagages et les choses vont suivre. Mmh. C'est vraiment d'anticiper. J'en parlais également à une amie qui est chirurgien vasculaire sur Casablanca, qui vient de faire ce chemin-là, qui vient de rentrer. Et effectivement, les gens pensent qu'on va arriver, on va poser nos bagages, on nous attend comme les messies, mais en fait pas du tout. D'un point de vue professionnel, on n'est pas encore suffisamment, on va dire, l'offre de soins n'est pas encore suffisamment étoffée, mais il y a déjà des professionnels qui sont sur place, qui font le job, qui travaillent et qui se lèvent tous les matins. Donc on n'est pas attendu, donc ça c'est déjà une chose. Donc faut anticiper un petit peu cette installation professionnelle. Il faut anticiper, on va dire, les démarches administratives vis-à-vis des équivalences de diplômes s'il y a besoin, vis-à-vis de l'ordre national des médecins, vis-à-vis du lieu où on va pratiquer ou en tout cas exercer son art. Et ensuite, il faut anticiper si on a des enfants, l'école. Moi, ce n'est pas mon cas, donc c'était un petit peu plus simple. Il faut aussi le logement, la ville dans laquelle on vient, savoir un petit peu le tissu social, comment il est organisé. Enfin, c'est plein de choses qu'on ne soupçonne pas, mais qu'il est important d'appréhender. Oui.
Absolument, absolument. Alors, justement, par rapport au fonctionnement professionnel, à vous faire une place parmi vos confrères, comment ça fonctionne dans le réseau des médecins?
Alors, déjà, comme je disais, on n'est pas attendu.
C'est une leçon d'humilité, ce retour aussi?
Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que mais quelque part, moi je m'y attendais parce que enfin il y a même une leçon d'humilité, mais même une leçon de. Alors moi, étant donné que j'ai un diplôme, on va dire qui est considéré comme étranger parce que j'ai fait mes études à l'étranger, donc il y a un processus d'équivalence ou en tout cas de quelque chose qui fait qu'on a le droit d'exercer ici au Maroc. Du coup, rien que de ce côté-là, on est censé exercer que dans le secteur privé. Donc déjà, ça fait quelqu'un qui arrive dans le secteur privé qui peut constituer une concurrence, en tout cas pour certains confrères qui peuvent le percevoir comme tel. Et il y en a d'autres qui vont considérer juste comme quelqu'un qui vient donner un coup de main et qui vient étoffer en tout cas l'offre de soins. Et donc il y a la leçon d'humilité, mais il y a aussi la leçon dans le secteur privé. Ici au Maroc, en tout cas, c'est beaucoup plus flagrant que ce que j'ai connu en tout cas ailleurs. Les gens se méfient. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de
Des confrères,
haine-œil. Oui,
oui, ou des patients?
de la part des confrères. De la part des confrères, non,
Confrères.
les patients, c'est un autre relationnel. Vis-à-vis des confrères, il y a un petit peu cette notion de chasse gardée.
OK.
Effectivement, ici, voilà. Donc, c'est un petit peu, on va pas dire difficile, mais il y a du travail pour faire sa place. Ouais.
D'accord. Mais alors, un médecin, il se fait sa place comment? Parce que j'ai l'impression que l'approche est en train de changer. Entre votre génération et les générations précédentes, c'est-à-dire que les médecins avant ne se faisaient pas de pub. Il n'y
Exactement.
avait pas ce marketing. En fait, on avait l'impression que la médecine, c'était cette spécialité qui n'avait pas besoin de publicité.
Oui, mais même d'un point de vue déontologique, normalement, vous n'êtes pas censé faire de publicité. Donc, au niveau du code de déontologie médicale, vous avez le droit de communiquer sur ce que vous faites, mais vous n'êtes pas censé faire de la publicité pour vous. Il y a de la
D'accord.
publicité, on va dire, de la part des établissements de santé privés, parce que eux ne sont pas soumis à eux, ce sont pas des c'est sont des entités on va dire,
C'est
c'est
des
pas un médecin, c'est
entreprises,
pas un
ouais.
praticien. Voilà, c'est des entreprises, même si j'aime pas ce mot, en tout
Ouais.
cas pour les cliniques ou pour les groupes de santé, mais ce sont des entités morales, on va dire, et non pas des praticiens en tant que tels. Donc eux ont le droit de faire de la publicité, ce qu'on a pu voir d'ailleurs pour certains groupes hospitaliers pendant Ramadan qui faisaient de la publicité à la télé. Moi, effectivement, c'est un concept que je n'avais pas. Mais il faut, en fait, en tout cas pour tirer quelque part son épingle du jeu ou se faire connaître auprès des patients, sans nécessairement faire de publicité, communiquer. Donc c'est super important ici au Maroc, alors qu'en France, c'est pas du tout. Il peut y avoir un petit peu via certains réseaux professionnels, via LinkedIn, des choses comme ça, mais pas sur des réseaux sociaux, on va dire, tout venant.
Mais on voit ça aujourd'hui, hein, quand même.
Ah oui, absolument. On voit
Ouais.
ça en médecine esthétique, on voit ça en médecine vasculaire, on voit ça dans plein de domaines. Même moi, j'ai été amené un petit peu à communiquer sur ce que je fais sans pour autant vendre en tout cas mes services. Mais on est obligé quelque part de se faire connaître.
C'est ça. C'est ça, parce que en fait, si on ne peut pas avoir le soutien de ses pairs pour se faire connaître, comment se faire connaître quand on vient d'arriver, quand on est un jeune débutant? Mais ça, je pense que c'est la problématique de tous les métiers. C'est-à-dire qu'il y a cette
Ah oui.
chasse gardée, concurrence, un de plus, ça veut dire une part du gâteau en moins, quel que soit le
Tout
domaine
à fait.
d'activité.
Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai l'impression ici que aussi un petit peu de. Alors le réseautage fonctionne. Alors par exemple ici à l'échelle tangéroise, on va dire qu'il y a beaucoup de réseautage par bouche à oreille. Donc vous rencontrez les gens, vous rencontrez. Moi j'ai la chance d'avoir des amis dont les parents sont médecins ici, qui m'ont présenté. Certains de leurs consoeurs, certaines de leurs consoeurs, certains de leurs confrères. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Et ça permet aussi d'étoffer son réseau d'un point de vue, on va dire, moins publicitaire. Et je préfère largement en fait ce mode de fonctionnement plutôt que de se vendre sur les réseaux, même si quelque part j'essaie de faire un petit peu de vulgarisation à travers les réseaux sociaux. Ouais.
C'est ça, c'est ça. J'imagine que ce réseautage, en fait, c'est à travers d'autres professionnels de la santé, mais peut-être pas dans la même spécialité que vous.
Non, pas nécessairement.
Pas nécessaire.
Effectivement, pas nécessairement. Donc, ça peut être des médecins généralistes. Moi, comme je disais, j'ai un très bon ami dont la maman est médecin généraliste. Elle m'a présenté à des amis à elle au sein de son réseau professionnel. J'ai un ami qui n'a rien à voir, qui est l'un des meilleurs amis, qui m'a présenté en tout cas un réseau de connaissances à lui, alors que lui, il est dans le BTP, il est dans la construction, donc c'est autre chose. J'ai aussi une maman d'un copain qui est pharmacienne, qui... Voilà, donc les gens essaient d'aider aussi de façon non intéressée, ce qui est vraiment très, très agréable.
Alors, ça fait combien de temps que vous êtes installé au Maroc, que vous êtes revenu ?
Alors, moi, je suis revenu le 1er mai 2023, donc ça va faire presque un an et demi.
Presque un an et demi. Est-ce qu'on peut déjà sortir un premier bilan après un an et demi ?
Alors, un premier bilan, je ne sais pas, mais en tout cas, un petit retour d'expérience, oui, parce qu'au bout d'un an et demi, j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir constater comment était organisée la médecine dans le secteur privé ici au Maroc, de me faire un petit peu mon idée de ce que je voulais faire et de ce que je ne voulais pas faire surtout. Et j'ai déjà déménagé deux fois,
ouais.
J'ai déjà changé de structure une fois. Donc oui, c'est mais je suis plutôt un bilan positif, on va dire.
Ouais. Vous vous attendiez à ça ?
Je savais que ça me pendait au nez, en tout cas, de ne pas être d'accord sur certaines choses avec certaines personnes et de changer éventuellement d'équipe. Oui, ça je m'y attendais, bien sûr. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y avait une émission comme ça, je pense, qui passait sur...
Oui, absolument. On ne peut pas plaire à tout le monde, exactement.
On ne peut pas plaire à tout le monde, oui. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire non plus. Donc, il y a un équilibre qu'il a fallu trouver et alhamdoulilah. Franchement, plutôt positif.
Alors, je pense... Mais quand on est pris justement dans autant de changements, on n'a pas le temps forcément de se recentrer sur soi. C'est comme si on gérait des impératifs au quotidien, en fait.
Et oui, il y a de ça, mais effectivement, faut pas oublier son cœur, comme vous avez commencé un peu notre entretien tout à l'heure.
Absolument.
Faut pas oublier son cœur non plus. Donc non, j'ai essayé de garder une activité sportive. Alors d'un point de vue sentimental, là pour l'instant, je suis en mode, on va dire off. Je gère certaines choses pour être bien. Globalement, avant de pouvoir effectivement me recentrer sur moi-même,
oui,
de ce point de vue-là.
Mais c'est aussi une... Est-ce que l'homme que vous êtes, justement, avec ses années d'expérience, son métier, etc., est-ce que vous avez un peu de pression familiale de ce côté-là ?
Absolument, je suis l'homme à abattre.
Yeg !
Non, mais avec bienveillance, bien sûr.
Yes.
Avec bienveillance, parce que effectivement... Ce qui est assez drôle, mais anarchapiwata, comme on dit, donc j'ai aucun souci avec ça. Que ce soit avec mes parents, mes cousines, cousins, avec un petit groupe d'amis. Donc, non, les gens, mais parce que les gens veulent notre bonheur. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettent aussi de s'immiscer dans ce côté-là de notre vie. Mais oui, effectivement, oui, les gens savent faire, on va dire.
Oui, les gens savent faire. Et ça vous fait quoi ? Parce qu'en général, pour en avoir discuté avec des femmes, justement dans Femmes d'aujourd'hui, ça peut être angoissant, ça peut être étouffant pour une femme d'entendre ça, ça met une double pression. Est-ce qu'un homme ressent aussi de la pression ou finalement pour lui, c'est en quelque sorte un folklore qui s'affaire autour de lui ?
Ah oui, bien sûr, je pense qu'on est aussi sensible. En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'assez sensible et je le ressens un peu comme une pression. Il y a certains moments où, effectivement, quand les gens en font un petit peu trop, je me permets de leur rappeler que les cartes sont plutôt dans mes mains à moi et que c'est bien, bien gentil de vouloir me donner un petit coup de pouce, mais que de toute façon... à la fin de la journée, c'est moi qui déciderai si j'ai envie ou pas. Donc, mais voilà, encore une fois, c'est de la bienveillance. Les gens, c'est pas juste pour faire la fête avec Gulgubrinen et Sobrinen Stroh.
Oui.
Mais c'est exactement. Mais voilà, encore une fois, je suis persuadé que c'est de la bienveillance, même si à un moment, cette bienveillance peut être mal perçue.
Est-ce qu'on devient... Plus on devient un célibataire, plus on endurcit avec les années.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, je suis vraiment, on va dire, célibataire depuis 2 ans. Mais ma mère aime bien l'homme marocain, on revient souvent à sa mère. Ma mère aime bien me sortir une phrase à un moment qu'elle trop lire et jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on a nos petites habitudes de célibataire, non pas endurcies, mais en tout cas, on a nos petites habitudes à mon âge. On aime bien, quand on se lève le matin, faire des choses comme ci, plutôt que comme ça. Ne pas avoir à gérer l'autre, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, effectivement, qu'il y a une arrache à un moment. C'est vrai qu'avec le temps, c'est le risque.
C'est le risque, absolument. C'est le risque d'être bien avec soi-même, en fait.
Exact,
de devenir, comme on dit, beaucoup plus, le mot exact est plutôt peut-être en anglais, beaucoup plus picky.
Oui.
Alors, je ne vous mets pas de pression, hein, je ne suis pas là pour ça, mais...
Ah non, 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 ne vous inquiétez pas, il y a toute l'armée derrière.
Non, je ne suis pas du tout là pour ça. Je voulais juste en parler justement avec un homme qui vit ça, parce qu'en général, ce sont les femmes. Je voulais la perspective masculine par rapport voilà, j'imagine que vous avez bientôt la quarantaine, c'est ça? Je sais qu'on ne pose pas la question. C'est ça, voilà, bientôt la quarantaine.
Exactement ça.
C'est ce qu'on appelle finalement un célibataire endurci, en quelque sorte.
Bah, si vous le dites.
Ouais. Bon, allez, je ne vous embête pas plus que ça, justement.
Non.
Hassan Debar, merci infiniment
merci
d'avoir été ma version homme de femme d'aujourd'hui, d'avoir un petit peu dévoilé le masque derrière le spécialiste. Ce n'est pas l'émission est là pour parler aux humains. Et on a plein d'autres émissions qui traitent de santé. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de vous suivre dans nos émissions spécialisées. Mais moi, j'étais contente de parler aux célibataires endurcis que vous êtes.
Merci, je suis désolée, tout ça, c'est partagé.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien. Et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.